Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Jusqu'à ce soir minuit, France Culture est partenaire de la Nuit des Idées, organisée par l'Institut français, en direct du Collège de France, de la Bibliothèque François Mitterrand. Mais d'abord, de nos studios à la Maison de l'Art Radio. Jusqu'à 13h30, grande table spéciale, la préservation de la nature et la nation démocratique. Comment faire de ces vieux concepts deux idées neuves pour 2020, en repensant leur finalité à l'aune des enjeux contemporains. Dans J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, chez Paul Sen. Il revisite la figure d'un des pères de l'écologie, l'américain John Muir. Alexis Génie, notre Goncourt 2011, est notre première invitée. Puis rendez-vous avec l'auteur de Slow Démocratie, David Jaiz, penseur nouvelle génération, dans la deuxième partie de l'émission. Bienvenue à tous sur France Culture. Vous pouvez nous écouter en direct ou en podcast sur le fil à retrouver sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Portrait sensible et émerveillé du naturaliste américain John Muir. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, vient de sortir chez Paul Sen. C'est quoi votre 20e livre, si on compte à peu près tout? Alexis Génie, bonjour.
Bonjour.
Le livre commence en tout cas sur une déclaration d'intention, un exercice d'admiration. Cet homme-là, un peu exalté, jamais fatigué et d'une extrême humanité, mérite qu'on raconte son histoire. Je ne sais pas s'il en existe d'autres comme lui, je ne sais pas s'il en existe encore. Et je ne sais pas s'il y en eut beaucoup, mais de savoir qu'il eut un jour un John Muir, cela suffit pour rassurer quant à l'humanité. Tenter de savoir qui il était permet de jeter un regard neuf sur la nature, dites-vous. Plus d'un siècle après sa mort, vous lui consacrez donc une biographie. Si vous aviez besoin d'être rassuré, c'est que vous, en tant qu'homme, pas en tant qu'écrivain, mais en tant qu'homme, vous doutiez de l'humanité ?
Alors c'est vrai que bon, la problématique écologique, c'est quelque chose que bon que je connais depuis longtemps. Ouais, moi j'ai fait des études de sciences. J'ai regardé un peu la nature de près, comment elle fonctionnait. Et c'est vrai que depuis quelques années, je suis un peu effrayé, effondré devant cette dévastation. Alors dévastation partout. Bon, il y a les dévastations très spectaculaires d'Australie qu'on a vu récemment,
les incendies, mais
partout en fait, partout l'activité humaine est très dévastatrice sur la nature telle qu'elle est. Et ça en devient inquiétant. Voilà, la disparition des oiseaux, la disparition des insectes, la baisse des populations de toutes sortes d'animaux. Voilà.
Et alors John Muir, il ne vous rassure pas forcément sur cet effondrement, sur cette crise environnementale et écologique que l'on vit aujourd'hui, mais il vous rassure visiblement sur la capacité humaine à se soucier des autres.
Tout à fait. Et sur l'émerveillement de la nature, voilà, c'est comme pour dire la nature, ça compte encore. On a beau vivre dans des mégapoles surpeuplées où on voit assez peu de nature, où on la voit vraiment transformée, il reste quand même au cœur de chacun une capacité d'émerveillement. Et d'émerveillement devant des arbres, devant des montagnes, devant des glaciers pour John Muir. Voilà, il y a ce lien que nous avons au plus profond de nous avec cette nature et que l'on n'oublie pas, qui est toujours là. Et écrire ce John Muir, c'est vraiment se rappeler de ce lien. Voilà, nous sommes liés à cette nature de façon très profonde, de façon organique, de façon esthétique, de façon spirituelle aussi.
Vous énumérez d'ailleurs toutes ces qualités. John Muir serait devenu à l'image de cette nature qu'il a explorée, comme touché, comme traversé par une grâce, par une beauté pure, par sa bonté. Est-ce qu'il existe pour vous, Alexis Génie, des personnages vraiment sans faille? Ou est-ce que vous avez juste pas eu envie d'aller chercher les siennes? Parce qu'il est assez parfait, votre John Muir.
Oui, alors il est très sympathique. Alors moi, j'ai été pendant les mois où j'ai écrit ce livre, c'était mon meilleur ami pendant tout ce temps. J'étais moi aussi assez émerveillé devant le personnage.
Émerveillé ou aveuglé?
Bah, les deux, c'est vrai que c'est un panégyrique extrêmement intense, ouais. Les failles sont mystérieuses. C'est-à-dire que c'est un type qui a passé beaucoup de temps tout seul et qui est un peu bizarre. Son rapport à la nature, c'est presque une conduite à risque. Il va toujours plus loin, il se met toujours plus en danger. Mais il fait ça tout seul. Voilà, il emmène personne avec lui. Et Donc ce que j'avais envie d'écrire, c'était ça, c'était quelque chose de positif, quelque chose d'exalté, quelque chose de d'émerveiller. C'est un mot que j'avais mis 200 fois dans le livre et que mon éditrice, dans sa grande sagesse, m'a dit non, tu devrais pas en mettre tant quand même.
Ouais, en tout cas, elle l'a pas gardé pour le titre. Et ce titre est quand même assez superbe. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Est-ce que ces mots sont vraiment de lui?
Ah totalement, ah, c'est oui. Totalement de lui. Et en fait, on avait cherché des titres en quelques mots, en deux mots, trois mots, un titre classique, quoi. Puis à un moment donné, c'est sûrement cette éditrice qui a dit, oui, mais moi, j'ai connu Muir, il m'a attiré l'attention par cette phrase-là. Ah bah ouais, on pourrait la mettre en titre, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment lui.
Il était parfaitement adapté à son siècle techniciste, écrivez-vous, mais il voulait autre chose. Quand et pourquoi a-t-il choisi une autre voie, John Muir?
Alors il a une vie un peu chaotique. Bon, il est né en Écosse, dans un petit village d'Écosse au bord de la mer. Voilà, il est allé à l'école, à la bonne école écossaise qui fonctionnait très bien. Et puis à 10 ans, 11 ans, son père décide d'aller en Amérique. Voilà, c'était le moment de la ruée vers l'or, mais lui, l'or ne l'intéressait pas. Il décide de s'installer dans une petite ferme. Et là, pendant 10 ans encore, il va travailler à la ferme. Il va travailler avec un père, une sorte de presbytérien un peu fou, qui ne voyait dans le monde qu'une sorte de vallée de larmes où on ne pouvait que travailler. C'était un mi-chemin entre la petite maison dans la prairie et puis le camp de travail. Mais avec cette enfance-là, il a développé un esprit assez étonnant, un esprit extrêmement méthodique qui l'a amené à l'université de Wisconsin. Et là, il a développé une capacité tout aussi étonnante à créer des machines. En fait, ce type aurait pu être Edison avant Edison. Il a inventé des tas de trucs. Et puis, il a décidé de tout lâcher. Tout lâcher pour partir se promener. Alors je dis promener ou pour vagabonder. Son premier voyage, c'était 1500 kilomètres, c'était du Wisconsin jusqu'en Floride, à pied. Et après, il a passé toute sa vie à ça, à voyager, pour aller voir des arbres. Il a eu quelques prétextes scientifiques. Bon, son apport scientifique est modeste, mais il était naturaliste et il disait je vais aller voir tels arbres, je vais voir s'il y en a. Et en fait, il passait son temps tout seul dans les montagnes, dans les forêts, et avec une sorte d'émerveillement permanent devant ce que c'était que la nature, que lui appelle la création.
C'est pas parce que votre éditrice n'est pas là que vous avez le droit de réutiliser à chaque phrase ce mot d'émerveillement. Hein. Elle va vous taper sur les doigts plus tard.
C'est vrai.
Il y a tout Muir dans cette aventure de quelques semaines dans la Sierra Nevada. Sa curiosité, son esprit d'aventure, sa résistance physique exceptionnelle, son émerveillement permanent, esthétique, spirituel et scientifique, son contact facile, son empathie avec les animaux, son humour tranquille et invincible, son dégoût de la destruction que l'on pourrait traduire en mots contemporains par souci écologique, même s'il n'employa jamais ce terme. Autre admirateur de John Muir, comme vous, Alexis Génie, c'est l'écrivain Arnaud Bertina qui évoquait cette figure dans un ouvrage paru en 2012, Je suis une aventure, chez Vertical. Arnaud Bertina.
Un de ses premiers carnets de voyage, c'est il part à pied, il a à peine 20 ans, et il part et il descend jusqu'au golfe du Mexique. Là, il traverse des États qui sont à peine sortis de la guerre de sécession, et qui sont donc des États détruits, avec énormément de maisons brûlées, avec des gens sur les routes, etc. Donc c'est un paysage un peu apocalyptique. Lui, il voyage dans des conditions vraiment très pauvres, avec un grand dénuement, il est obligé d'attendre de temps en temps des petits mandats dans les postes, etc. Donc il dort la nuit dans les cimetières, et il mange très très peu, etc. Et à un moment, il a cette phrase hallucinante qui, je pense, n'a absolument aucun équivalent nulle part dans la littérature mondiale. Il dit « on vit un âge d'or ». Et je trouve cette phrase totalement dingue parce que dans le meilleur des cas, et c'est vraiment très peu souvent, on dit « l'âge d'or, c'est pour plus tard ». La plupart du temps, c'était avant. C'est une époque lointaine qu'on n'a même jamais connue. Et puis, soi-disant, c'était beaucoup mieux avant, etc. Et je me dis « mais la force de caractère dont rencontre cette phrase-là, on vit un âge d'or », c'est d'être capable de voir la vie incroyable qu'on a sous les yeux, les expériences incroyables qu'on peut faire, qui sont à portée de main, même quand on est englué dans le quotidien. Et moi, je trouve ça absolument splendide. Je suis très ému par cette joie-là.
Voilà, on vit un âge d'or, disait John Muir. Est-ce qu'il aurait, d'après vous, Alexis Génie, la force de vie nécessaire pour le dire encore aujourd'hui? Est-ce que là, en 2020, un John Muir pourrait s'émerveiller?
Ouais, alors bon, sûrement. Il y a. Mais alors, c'est vrai que ce qu'il a dit là, il l'a dit dans ses premiers voyages, dans un monde justement où la présence naturelle était très très, très forte. À la fin de sa vie, dans les années 1880, quand il était en Californie, il a vu les dégâts produit par le développement économique de la Californie. C'est-à-dire que la Californie s'est développée à toute vitesse après la ruée vers l'or. Et dans la Sierra Nevada, qui était un endroit un peu inexploré, très très vite, on s'est mis à faire des trous pour trouver de l'or, on s'est mis à couper des arbres parce qu'ils étaient énormes, alors ça faisait rêver. Et puis on s'est mis à faire paître des moutons qui dévastaient tout, parce que c'est un écosystème fragile, un écosystème méditerranéen de montagne. C'est les moutons sont dévastateurs. Et il a vu de ses yeux, en temps réel, ces ravages que faisait un développement économique totalement libre, une sorte de libéralisme à l'état brut. C'était le Far West, quoi, donc à l'époque. Et là, je pense que, bon, il a été inquiet. Il a fait tout ce qu'il a pu pendant les 20 ou 30 ans qu'il lui restait à vivre, par ses écrits, pour essayer de protéger ce qu'il y avait à protéger. Donc, je pense qu'il y a une différence entre ce qu'il pouvait dire et voir dans les années 1860, en se promenant dans le sud des États-Unis, en plus un sud agricole, forestier, et ce qu'il a pu voir dans la Californie en développement accéléré. Et là, je pense qu'il a été inquiet, il a milité véritablement par ses écrits, par ses capacités d'écriture, pour protéger ce qui pouvait être protégé.
Voilà, il répétait, le monde a besoin de forêts, effectivement, pour répondre à cette consternation, hein, comme vous le racontez, de voir aussi la destruction se propager autour de lui. Ce qui est intéressant, et vous l'avez évoqué, Alexis Génie, c'est aussi ce télescopage entre l'épopée de cet homme et l'époque, entre cette figure de légende qui va se bâtir, mais aussi très ancrée dans ce moment, et dans cette culture et dans ces mythologies américaines que je vous propose juste d'évoquer en un court instant avec l'historien des images François Brunet.
L'expérience pionnière, c'est aussi une expérience de destruction.
C'est d'abord une expérience de destruction et de construction qui s'étend pendant des siècles et plus spécialement pendant une période d'environ 50 à 80 ans décisive au 19e siècle, effectivement, et qui est une épopée extrêmement, par moments extrêmement violente. Non seulement contre la nature, mais aussi contre les premiers habitants de ces territoires, les Indiens, et qui va contribuer aussi à précipiter, plutôt souvent par réaction, la conscience écologique.
Voilà, est-ce que sa conscience à lui, John Muir, est née aussi d'une réaction ?
Je pense qu'il avait une conscience écologique. Alors après, parler d'écologie, pour lui, c'est un peu compliqué parce que, on va dire que l'écologie n'était pas tout à fait inventée. Il l'exprimait pas du tout comme ça. Il l'exprimait avec ses ressources intellectuelles et ses ressources d'éducation qui étaient une vision spirituelle de la nature. Pour lui, c'est la création. La création est ce qui indique un créateur. Il y avait quelque chose de sacré pour lui dans la beauté, dans cette création, et garder cette création intacte, c'était quasiment un acte de foi. Et détruire cette création, c'était carrément une sorte d'attentat, de blasphème contre le créateur.
Voilà, dire aujourd'hui de lui que c'est un père de l'écologie, vous l'écrivez, c'est un peu coller nos mots, voilà, et nos représentations.
C'est une sorte de grand ancien, de grand ancêtre mythologique. Mais c'est vrai qu'il a vraiment milité pour cette préservation. Et ça, c'est quelque chose qui... il a fondé un petit peu ce courant préservationniste, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire découper de grands territoires, et là, on fait rien. Et ça, c'était... ça a été une vision américaine, c'est-à-dire qu'on fantasme une Amérique vide, une Amérique de nature, c'est la terre promise un peu, c'est la nature à l'état brut, on oublie les Indiens, bien sûr, et on va en préserver des morceaux, en les préserver de l'activité humaine. Et donc ça, c'est ces grands parcs nationaux américains sont complètement liés à une vision américaine des grands espaces. Lui était au moment où on faisait ça. Alors, il ne faut pas surestimer son rôle. C'était l'époque des grands parcs. Donc avant lui, on a commencé à en préserver, Yellowstone par exemple, et après lui, on a continué à en préserver. Mais lui a beaucoup écrit pour préserver.
France Culture, en compagnie de l'écrivain Alexis Génie, biographie de John Muir. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, c'est chez Paulsen. Il est midi et quart.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
On cherche aujourd'hui, tout au long de cette journée sur France Culture, des idées neuves pour 2020. 20 idées neuves pour 2020. Préserver la nature. C'est pas une idée neuve. John Muir l'avait très bien développée il y a plus d'un siècle de cela. Est-ce que vous diriez néanmoins que dans la manière dont il l'avait formulée, il y avait une part de prophétie? On compare souvent John Muir à un prophète. Est-ce qu'il avait déjà perçu, prévu ce qui allait se passer aujourd'hui, selon vous?
Il l'avait vu parce que il a assisté à cette conquête de la Californie, cette conquête très accélérée. Entre le moment où il est arrivé en Californie et la fin de sa vie, il a vu la Californie se transformer. C'était un lieu en transformation accélérée. Donc il a pu voir sous ses yeux, en plus, cette montagne fragile qu'est la Sierra Nevada. C'est rocheux, c'est sec, c'est montagneux, c'est très très sensible à l'exploitation un peu délirante. Bon, il raconte que à l'époque on voulait couper les séquoias, donc le problème c'est que les séquoias, quand ils tombent, ils se cassent, mais les morceaux étaient encore trop gros, on les faisait sauter à la dynamite, et ce qui restait, on allait en faire des petites planches pour faire des cabanes. Donc il y avait quelque chose qui est totalement dévastateur et absurde, de transformer cette espèce de merveille de la, on va dire merveille de l'évolution, ça c'est notre vision, merveille de la création, ça c'est sa vision, de les transformer en cabanes, et avec énormément de pertes. Donc il a vu ça, et donc il en a conçu une vision inquiète de l'évolution de la nature.
Lui, le naturaliste américain né écossais, est devenu un homme exemplaire, hein, racontez-vous, et ce en plusieurs étapes. Et c'est cet itinéraire que vous avez choisi de suivre et de retracer, avec en 1867 sa première route, son premier projet, son but, si ce n'est une direction qu'il s'était fixé, ce cap au sud. Dans sa vie, la nature reste et les hommes passent, c'est ça qui est aussi assez marquant. Il fait des rencontres, mais il ne s'attache pas, ou peu, peu de traces de femmes aussi dans ses écrits.
C'est mystérieux.
C'est la condition quand même peut-être première du vagabond solitaire. Beaucoup ont renoncé à le suivre. Vous, vous y êtes parvenu, en tout cas dans ce livre, et vous rendez compte de cette épopée, de ce voyage qu'il a réalisé. Mais il y a quand même une rencontre qui restera centrale, essentielle. C'est celle entre Muir, le prophète barbu, et Roosevelt, le président. Racontez-nous.
Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu... ça ressemble à une légende. Donc Roosevelt voulait rencontrer Muir. Alors c'est Roosevelt, le premier Roosevelt, un Théodore, qui était une sorte de baroudeur et qui mettait en scène ce côté baroudeur. Et il veut voir Muir, il lui écrit, etc. Muir devait partir en voyage, donc il dit « Oh ben non, je peux pas ». Roosevelt insiste, donc il vient en Californie. Et là, Muir, tout simplement, l'invite à camper pendant 3 jours, dans un week-end, donc de camper dans la Sierra Nevada. Donc ils partent tous les deux tout seuls, sans apparat, sans courtisan, sans sécurité, et ils dorment à la Belle Étoile, autour d'un feu de camp, on sait pas trop ce qui s'est passé, ce qu'ils ont... Et quand ils reviennent, ils sont extraordinairement amis. Roosevelt est enthousiaste, il dit « c'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré ». Et du coup, il signe le décret comme quoi le parc Yosemite, qui avait été fondé comme parc de l'État de Californie, devient parc fédéral. Parce que Muir avait absolument aucune confiance dans les institutions de l'État de Californie, qu'il trouvait corrompu. Bah, là aussi, hein, c'est le Far West, donc c'est pas très honnête tout ça. Et donc, ça a un effet direct. C'était ce parc devient parc national, fédéral, et est protégé de toute tentative de reconquête par les industriels. Mais cette espèce de rencontre comme ça entre le président baroudeur et le prophète barbu, le prophète des forêts, c'est comme une rencontre de deux grandes figures du moment. Et ça, c'est très pittoresque. C'est un côté légendaire qui est plaisant, et c'est bon à mettre dans un roman, ça.
Et qui perdure encore aujourd'hui aussi dans la réalité. Tout n'est pas que fiction. Ouais. C'est aussi, vous l'évoquiez, celui qui a eu pour le premier cette idée des parcs nationaux qui perdure aujourd'hui. De l'or vert avec John Muir à l'or jaune, de la ruée vers l'or ou l'or noir, des chercheurs de pétrole. Arthur H., la pièce qu'il a créée à la Colline à Paris avec Wajid Mouawad part en tournée. Vous pourrez retrouver Arthur H. en mars à l'Opéra de Massy, fin mars au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Il est à l'affiche de Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge.
Francisco, 3 mai 1860, dans ma gêne. Chère Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais il me reste bien l'autre. Oh Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme ma main nue. Entouré de misérables, de Polonais et aussi quelques Français. Oh Marie, nous autres les errants, les chercheurs d'or, si nous ne vivons que par elle, la montagne nous dévore. Tout est bon, ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est chaud, ici c'est bon.
Arthur Hage, le chercheur d'or, à l'occasion donc de cette pièce créée à la colline et qui tourne aujourd'hui en France, Port prématuré d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. On disait que ça convenait assez bien à votre livre, Alexis Génie, J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Il y a comme un écho, un effet miroir entre les deux titres. Vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi pour nous parler de cet homme de légende, de ce naturaliste américain John Muir, fondateur notamment des parcs nationaux. Il avait, et vous le racontez, un contact très particulier qu'il avait su créer avec la nature, sans être en rupture pour autant avec la civilisation. Voyageur vagabond, il se différenciait d'un ermite. Mais qu'est-ce qui le séparait d'un Henry David Thoreau, pour vous, qui était philosophe, c'est l'auteur de Walden ou la vie dans les bois, philosophe libertaire, dans leur conception de la nature et du monde, qu'est-ce qui différenciait ces deux hommes?
Ouais, c'est presque un état d'esprit. Thoreau est un philosophe plutôt, et il va réfléchir sur la société, sur les institutions, alors cette solitude opposée à la vie sociale qui est pleine de contraintes. Donc, mais sa vie dans les bois, en fait, ça a fait un petit peu rire Muir quand, sur la fin de sa vie, il est allé justement visiter Walden, les temps de Walden. Il a vu la cabane, tout ça, mais il dit, mais c'est quoi? C'est à un peu plus d'un kilomètre de la petite ville, et de là, on voit le chemin de fer qui passe. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait dans les bois. Il était un peu au fond du jardin. Alors, ça n'enlève rien à sa réflexion. Ça n'enlève rien à sa réflexion sur la société, les institutions, les contraintes, une sorte d'anarchisme tempéré. Donc, c'est très, très différent. C'est-à-dire que Muir, lui, est allé vraiment au fin fond de la sauvagerie, tout seul. Il était sur des glaciers d'Alaska, il est allé dans les grandes forêts. Il a vécu là, il a vécu des semaines, des mois dans des endroits totalement déserts. Et il n'a pas été philosophe, il a été écrivain et poète. Donc voilà, c'est deux façons de voir la nature et l'institution. Thoreau, c'est plutôt la société sur laquelle il réfléchit. Muir, c'est la nature, purement la nature.
Puisqu'on parlait aussi de l'importance du projet d'écriture que vous avez mené, Alexis Génie, avec ce très beau livre, J'aurais pu devenir millionnaire et j'ai choisi d'être vagabond, vous diriez que Muir, dont vous racontez aussi la difficulté à écrire la nature, à décrire son émerveillement, là où on a le sentiment que vous lui prêtez un peu votre plume, est-ce qu'il était un auteur fondateur de cette mouvance, de ce mouvement du nature writing qui en a influencé beaucoup d'autres?
Alors, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste du nature writing, mais je pense que il en est un des fondateurs importants. C'est-à-dire qu'il a une écriture qui est extrêmement libre, extrêmement joyeuse, extrêmement on va dire épique et empathique avec la nature. Et c'est quelque chose qui m'a frappé dès que j'ai commencé à lire ses livres. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plan-plan, et en fait j'étais émerveillé par son écriture qui emporte. Alors lui, il était un peu réticent à écrire parce que bon, il est obligé de s'asseoir, il est obligé de se mettre sur une table, il est obligé d'aller en ville, et ça ne supportait pas. Donc il tournait en rond. Mais après, bon, moi aussi, je tourne en rond avant d'écrire, donc je comprends bien ça aussi. Et il a écrit pas tellement. Enfin, il a beaucoup écrit dans sa vie. Beaucoup de choses sont restées dans des carnets. Beaucoup de choses ont été écrites dans des articles. Il y a très très peu de livres, en fait. Et même ses souvenirs d'enfance, elles ont été dictées à un secrétaire. Et on sent bien d'ailleurs le côté oral de la chose.
Et il faisait beaucoup de dessins, ça vous le racontez, c'est quand même beaucoup de croquis, ça l'amusait plus.
Ses carnets sont fabuleux, c'est des petits récits au quotidien et des dessins de ce qu'il voyait.
Alexis Génie, vous serez le président du jury du prix du roman d'écologie qui sera rendu en avril. Un jeune prix, troisième à être décerné cette année. Et ça dit quelque chose aussi de cette nouvelle préoccupation qu'est l'environnement, qu'est l'écologie, y compris dans la littérature. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table. On va se quitter avec un autre prix, celui du Festival de la BD d'Angoulême qui vient d'être décerné. Il vient décerner son grand prix au scénariste, dessinateur Emmanuel Guibert face à Catherine Meurice et Chris Ware, révélé avec La guerre d'Alan, souvenir d'un soldat américain envoyé au front en Europe en 1942. Son album Photographe aussi avec Didier Lefebvre, entre dessins et reportages photo. Il est passionné de radio, il le reste, j'espère, observateur sensible. Et voilà ce qu'il nous disait l'an passé, il nous disait se méfier des prix.
J'ai tendance à penser que, quitte à donner des prix, outre le fait que j'ai un peu de difficulté avec ce qu'on appelle la compétition en règle générale, mais quitte à donner des prix, je trouve qu'on devrait les donner de prime abord aux jeunes gens, ceux qui ont entre 20 et 30 berges, qui n'ont pas encore vraiment percé, mais qu'on reconnaît déjà comme des pousses prometteuses et à qui on donnerait un coup de pouce, ou alors aux vieilles dames et aux vieux messieurs qui commencent à avoir des difficultés pour exercer leur travail et qui néanmoins laissent derrière eux un patrimoine étincelant et auquel il faut évidemment tirer un coup de chapeau. Ceux qui sont en plein boom, pour lesquels globalement ça va bien, Chris Ware, moi, toute proportion gardée, on est en train de bosser. Donc je me dis, c'est pas le moment de nos vies pour nous donner ça.
Mais si, c'est toujours le moment, Alexis Génie. Quand vous avez pris votre prix Goncourt, c'était le bon moment.
Oh oui, oui, oui. Puis c'était même mieux de l'avoir sur le tard que de l'avoir à 25 ans. Hein. J'en aurais fait mauvais usage.
Bon, mais gageons qu'en tout cas, aujourd'hui, Emmanuel Guibert est heureux, pour sûr. En tout cas, il est le nouveau grand prix du Festival d'Angoulême. Les planches contact d'Emmanuel Guibert, c'est une grande table culture du 22 janvier 2018. Notre rencontre avec lui, notre entretien, que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez sur franceculture.fr. À tout de suite pour la deuxième partie de la Grande Table.